Bonsoir, bienvenue sur Cyclocast, le podcast du vélo au quotidien. Ce soir, c'est moi, Grincheux, qui vais vous faire le maître de cérémonie. Avec nous, nous avons donc Mogor.
Bonsoir.
Prokylus.
Chalut, chalut.
Et première sur le podcast, une invitée. Nous avons l'honneur d'avoir Betty Boop.
Bonsoir.
Et non seulement elle est invitée, mais elle nous accueille dans sa maison. Nous sommes dans son salon, confortablement installés dans le canapé au coin du feu. On est comme des pachas.
C'est vrai, c'est vrai. Et en plus...
Avec un verre de vin, enfin, on est...
Lumière tamisée, vin rouge, rosé, on vient de se faire les fraises avec la chantilly, c'est magnifique.
C'est royal, on est vraiment confortable. On a aussi un spectateur silencieux dont nous ne dévoilerons pas le nom.
Voilà, comme des coques en pâte. Au sommaire ce soir, donc quelques news, pas grand chose, mais quelques news quand même. Je vais après vous faire un dossier donc, en mettant ma casquette de Raymond Labrocante. Prokylus va vous parler de quoi faire en cas d'accident. Nous allons cuisiner Betty Boop. Et Mogor, tu auras une petite surprise pour la fin ?
Je ne vous en dis pas plus, vous verrez.
Très bien. Et bien, c'est parti pour les news.
Très bien. Alors déjà, je vais faire un petit erratum. J'ai oublié une news lors de l'épisode dernier. J'ai oublié de vous parler du poisson d'avril qu'ont fait les valveurs à Lyon. Ils ont arrêté les automobiles sur le pont de la Mulatière et donc on fait un tractage prétendant qu'il y allait y avoir bientôt un péage qui allait être dressé à l'entrée du pont de la Mulatière pour financer les aménagements cyclables.
En voilà une bonne idée.
Voilà, c'est une très bonne idée. Donc bien évidemment c'était une blague, ils l'ont signalé par la suite, mais ça a fait son petit effet. Voilà.
Il n'y a pas d'automobilistes qui ont découvert que c'était une blague ?
Alors en fait, on leur a dit par la suite, mais il y a des gens qui l'ont pris pour argent comptant, qui ont dit oh, « mais c'est pas possible, mais ça va me coûter super cher pour aller au travail, etc. » Là, bien sûr, les valveurs ont réembrayé en leur disant « mais vous pouvez très bien venir à vélo, vous savez, là ça sera gratuit. » Mais très vite après, ils leur ont dit « bon, c'est une blague, etc. » D'autres personnes ont dit « ah non, mais vous avez bien raison, il faut, hein, parce que ça coûte cher les aménagements cyclables. Bon, » sachant que l'encorbellement de la passerelle qui va permettre aux cyclistes de passer donc du sud d'ouest de Lyon, des communes d'Oulin, Pierre-Bénite, vers le centre-ville de Lyon, ne va coûter qu'un pour cent de tous les aménagements du coin. Donc, au final, c'est pas ce qui va coûter le plus cher. Voilà.
Mais c'est génial, cette action.
Ah ouais, ouais, c'était génial, c'était très très drôle. Si vous allez sur le site de Valve, du collectif Valve, vous verrez d'ailleurs, ils ont pris des photos de cette opération. Je crois que Mogor, tu avais une info, toi aussi.
Tout à fait, j'ai une info qui nous concerne directement, nous, les podcasteurs et vous, les poditeurs. Sur le site cyclocast.fr, on a un répondeur audio. Donc vous allez sur le site et à droite de l'écran, vous pouvez cliquer et enregistrer pour nous envoyer une petite carte postale, une petite information, des billets doux, des commentaires. Il suffit d'avoir un microphone branché à votre ordinateur.
Ou avec votre smartphone. En fait, c'est une chose qui nous a été demandée suite au mini-podcast que j'ai enregistré lors du Ventoux. Et plein de gens, on a eu plein de commentaires qui nous ont dit « mais ah, c'est génial de pouvoir enregistrer comme ça. Est-ce que nous, on pourrait pas vous partager nos événements. » Eh bien, allez-y, lâchez-vous.
Voilà, on l'a fait. Vous demandez, on l'a fait. On est comme ça, à votre service. Et voilà, on reçoit après le son, le message par email et on peut l'intégrer dans notre émission. Donc, n'hésitez pas, cyclocast.fr, sur le bord droit de votre écran, le répondeur.
Je tiens à dire, par contre, que mes admiratrices secrètes, si elles veulent m'envoyer des trucs, c'est plutôt sur mon adresse mail, mais... non, bref.
Non,
pardon,
non.
Excusez-moi.
Ok.
Bon, là, c'est bon, je vais me faire tuer. J'avais une autre petite news concernant la ville à vélo. Nous avons fait une action de sensibilisation où mon camarade Grincheux était d'ailleurs présent concernant l'éclairage dans le tunnel de la Croix-Rousse. Il faut savoir que nous avons un tunnel mode doux qui a été ouvert en décembre dernier, qui est très pratique, qui fait gagner beaucoup de temps dans les déplacements depuis le 9e arrondissement et tout l'ouest lyonnais. Néanmoins, le gros problème, c'est que l'éclairage est plutôt défaillant. Donc, nous avons, avec la ville à vélo, fait une petite opération. Nous avons distribué des tracts et où nous avons distribué gratuitement des systèmes de phares amovibles, rudimentaires, mais suffisants pour être visibles et pour éclairer un minimum. Et voilà.
Et contrairement à ce que France 3 a annoncé, c'est bien la Ville à Vélo qui est à l'initiative de cette opération et non le Grand Lyon.
Merci Grincheux, merci beaucoup. Car oui, effectivement, si vous nous avez vus sur France 3, vous avez dû croire que c'était le Grand Lyon qui était à l'initiative de cette action. Ce n'est pas du tout le cas. C'est la Ville à Vélo qui les a contactés pour leur dire que nous allions faire cette action. Et ils ont un petit peu... Enfin, les journalistes ont un petit peu récupéré l'info pour le Grand Lyon.
Mais voilà. c'est pas non plus le Grand Lyon qui a cherché à récupérer l'info.
Non, non, non. C'est France 3 qui a fait une maldonne.
Voilà.
Je réponds à une question hors antenne que m'a fait Mogor.
Tout à fait.
Concernant les mesures qui allaient être prises, le Grand Lyon s'est engagé à faire un éclairage au sol à diode pour pouvoir mieux matérialiser les différentes voies. Il faut savoir.
Ah, ça serait parfait parce que tu me disais hors antenne, c'est que il y avait plus d'éclairage dans le tunnel, moins d'animation. Moi, je trouvais ça dommage parce que j'adore les animations. Il y en a certaines, c'est la fin du Tour de France. On a l'impression d'être un champion quand on roule. Des fois, on navigue dans l'espace. Des fois, il y a des animaux. Bon, des fois, c'est un peu étrange. En tout cas, je trouve ça super rigolo. Et il suffit d'éclairer le sol pour voir si quelqu'un est debout dessus, si un vélo arrive, plutôt que d'avoir ces espèces de ninjas qui roulent sans lumière ou les piétons qui sont au milieu parce qu'ils prennent des photos.
Voilà, c'est-à-dire que le gros problème de ce tunnel, c'est qu'on avait beaucoup de personnes qui circulaient, comme vous l'avez compris, sans phare, ni avant ni arrière. Donc, du coup, le Grand Lyon, lui, suite à des accidents, dont un accident grave, a décidé de prendre des mesures et à faire sauter certaines animations projetées pour pouvoir monter la puissance de l'éclairage des rampes d'éclairage qui sont au-dessus à 5 ou 10%, ce qui a permis d'avoir une meilleure visibilité dans le tunnel. Et donc, le Grand Lyon s'est également engagé à mettre des diodes au sol pour ça. Néanmoins, j'insiste sur le fait qu'il y a certaines projections qui vont devoir être retirées parce que sinon, on va pas pouvoir voir certains usagers, je pense entre autres aux enfants sur trottinette.
Ok, on pourrait en parler des heures, mais on va quand même passer à la suite. Dernière news, à moins que vous ayez deux choses à rajouter après.
On t'en prie.
Donc dernière news, l'association Cadre, donc une association cycliste de Mulhouse, organise une fête du vélo cargo, donc à Mulhouse, le 17 mai, place de la Réunion à 14h. Donc comme vous devez commencer à le savoir, le vélo cargo, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Et donc on voulait vous faire partager cette information, parce que même si nous sommes lyonnais, nous essayons de ne pas garder que les informations typiquement lyonnaises. Donc nous allons faire le nécessaire pour que ce podcast soit mis en ligne avant le 17 mai, que vous puissiez, si vous êtes alsacien, avoir l'information pour aller découvrir ces vélos originaux et qui permettent de transporter pas mal de choses. Voilà, je crois que c'est tout pour les news.
C'est tout pour moi.
Et bien donc je vais passer à mon dossier, donc Raymond Labrocante. Aujourd'hui donc je vais endosser ma tenue de Raymond Labrocante pour vous parler de restauration de vieux vélos. Alors le vélo étant un moyen de locomotion peu onéreux, il est fréquent de voir du monde retaper des vieux clous pour en faire des vélos plus qu'acceptables, et ce avec plus ou moins de succès. Alors c'est vrai que c'est rigolo d'entretenir son vélo, de restaurer un vieux vélo, de chiner des pièces, et puis surtout la finalité c'est de pouvoir repartir avec. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant, et surtout d'un point de vue financier, parce que on a vite fait de rajouter une petite pièce à 10 euros, puis une pièce à 20 ici et là. Et puis après, est-ce que le résultat final au niveau de l'homogénéité du vélo est également intéressant? Parce que souvent, ça s'apparente à de l'alchimie. On tente de faire de l'or à partir de plomb, et en général, on finit toujours avec du plomb, mais qui vaut de l'or, mais c'est toujours du plomb.
De l'acier, tu veux dire?
Voilà, souvent, oui, de l'acier, et pas du meilleur qu'on trouve.
Yeah, steel is real.
Oui, il y a de très très bons aciers et de très très mauvais alus, mais il y a aussi de très mauvais aciers et c'est pas forcément idéal pour faire un bon vélo. Donc bon, je passe outre tous les aspects sentimentaux qui peuvent nous pousser à retaper un vieux clou sur lequel, par exemple, on aurait toujours vu notre grand-père sillonner tout son patelin pendant toute notre jeunesse, où là, c'est le cœur qui va nous dicter cela. Il y a juste un il n'y a pas question de valeur marchande ni de valeur intrinsèque du vélo, mais de préserver un héritage familial, et bon, cela n'a de prix que celui qu'on est prêt à y mettre. Non, moi ce dont je vais vous parler, c'est de ce vélo qu'on nous a donné ou qu'on a dégoté dans un vide-grenier en disant que ça ferait bien un super vélo pour tous les jours. Il y a juste à nettoyer 2-3 trucs. Oui, il n'y a qu'à Faucon. Mais bon, ce vélo, même si donner ou acheter une bouchée de pain, des fois, il en vaut pas beaucoup plus. Et même avant qu'on s'en rende compte, on a déjà remplacé la moitié des composants par des trucs plus récents, plus neufs, plus ceci, cela. Et au final, on se retrouve avec une ardoise qui est parfois astronomique en regard du prix qu'on a mis au départ. Tout ça pour avoir toujours un cadre qui est moyen au mieux, et généralement qui vaut pas mieux qu'un vieux tuyau de chauffage rouillé.
Sauf si c'est un motobécane. Un mogor.
Ouais, et encore, il y a...
Je me retiens de parler, vu que je suis vintage.
Mais bon, non, il y a un cadre qui est encore suffisamment correct pour estimer qu'on n'a pas encore fait trop d'alchimie. Mais je pense qu'on est un peu à la limite. Bah oui, parce que même si on a mis un super équipement dessus, le vélo, c'est un tout qui doit être homogène. Alors, si le cadre n'en vaut pas la peine, parce que c'est un cadre vraiment moyen, parce que il est trop petit, ou si les roues sont plus molles qu'un vieux chewing-gum mâchouillé, plein d'autres raisons, bah, on aura beau avoir investi plein d'argent dans diverses pièces, bah, le vélo ne vaudra pas plus cher que les pièces qu'on a rajoutées dessus. Et donc, on a vite fait de plonger du côté de l'alchimie. J'en ai moi-même plus ou moins fait les frais avec mon vélo hollandais.
Avec ton vélo hollandais, avec ton premier vélo de route, avec ton
deuxième... Non, rajoute pas, stop.
Mon premier vélo de route, j'ai fait aucune dépense dessus.
Non, mais je te tec.
Et il part au quart de tour.
J'ai juste acheté une paire de pneus et ça me semble être un peu un minimum d'investissement. Mais c'est pas. Et d'ailleurs, j'ai récupéré mes pneus. j'ai récupéré mes pneus pour mettre des pneus pourris, enfin des pneus médiocres quand je l'ai revendu. Espèce de médisant.
Non, je défends mon camarade, il a une très très belle écurie. Il faut pas.
Non, mais oui, mon vélo hollandais d'origine, j'ai la roue avant, le sein, enfin le guidon et le cadre. Tout le reste a été changé et encore le cadre.
Les Hollandais, ça vaut la peine.
Oui, mais voilà. D'accord. Alors, ce vélo-là, je me justifie avec un côté sentimental. C'est mon premier vélo taf que j'ai acheté.
J'ai
mis beaucoup de cœur à le
retaper. Ce que tu ne dis pas, c'est que Betty vient de dire ça parce que je pense qu'elle a quelque chose à voir avec la Hollande.
Mais nous y viendrons après.
Bah oui, mais, on attend que tu nous aies expliqué.
Mais voilà, ce vélo, je l'ai acheté pas très cher sur une bourse au vélo. Puis rapidement, j'avais plus de frein arrière, j'ai remplacé la roue arrière pour.
Mais je t'arrête tout de suite. En fait, on ne te demande pas de te justifier, on te taquinait et directement tu te justifies, donc c'est drôle.
Non, je me justifie pas, je suis moi-même rentré dans le jeu de l'alchimie sans m'en rendre compte. Ce petit dossier était là justement pour mettre en garde des dépenses
qui peuvent entraîner l'amour.
Voilà, ça a été source de grands conflits avec Mogor lors de déménagement. Mais ce cadre-là, il est tout rouillé. Tu vas encore te ramasser ce truc-là qui traîne depuis des années dans le couloir. Et donc voilà, au final, je l'ai fait repeindre, j'ai remonté tout, j'ai réussi à tout remonter d'ailleurs. Mais malheureusement, en plus, il me fait mal au genou quand je roule avec, donc je ne l'utilise quasiment jamais.
J'ai eu l'occasion de le conduire, mais malgré tout, je dois bien avouer qu'il est. Moi, je l'ai trouvé très confortable à conduire et on a quand même la classe dessus.
Tu as peut-être un potentiel acquéreur.
Non, il n'est pas à vendre et j'adore rouler avec parce que j'ai la classe.
L'amour
avec.
Coûte cher parfois.
Donc voilà, c'était tout pour ce dossier sur l'alchimie du vélo que l'on aura trouvé en brocante, mais je ne manquerai pas d'occasion de revenir sur le sujet de Raymond la brocante. Eh bien, Proc, tu avais un autre dossier ?
Oui, mais je vais peut-être d'abord laisser Mogor présenter Betty et puis je ferai mon dossier ensuite.
Très bien. Je
t'en prie, Mogor.
Eh bien, bonjour Betty, bonsoir. J'ai quelques questions pour toi, pas du tout de piège. Déjà, peux-tu rapidement te présenter qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Et comment en es-tu venu au vélo et sur quoi roules-tu ?
Aïe !
Beaucoup de questions.
Tu me poses toutes les questions en une seule fois.
Tu les fais peut-être une par une.
Qui es-tu ?
Bon, je suis une femme hollandaise à l'origine, hollandaise indonésienne. Donc comme tout le monde le sait, qu'en Hollande, on roule beaucoup à vélo.
Mais ah bon ?
En Indonésie aussi, on roule un peu à vélo. Parce qu'en Indonésie, les gens ne sont pas assez riches pour acheter une voiture. Donc souvent, les moyens de transport, c'est ce qu'on trouve et ce qu'il y a sous la main. Là-bas, d'ailleurs, on trouve beaucoup, beaucoup, et ça va intéresser Grincheux, beaucoup de très, très vieux Hollandais. Des vélos hollandais, je parle. Hein.
ne le tombe pas.
Et donc, voilà. Étant...
Quand est-ce qu'on part en Indonésie, Mogor ?
Je vous conseille de partir rapidement. C'est trop beau là-bas.
D'accord, mais sans trop de valises.
Oui, voilà. Mais donc voilà, comment je suis arrivée à vélo, tu m'as demandé.
Oui, que fais-tu dans la vie et comment en es-tu venue au vélo à un moment ?
Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je m'amuse surtout, tu vois.
Tu as bien raison.
Quand j'étais encore en ville comme Paris ou Lyon, où j'habitais auparavant, je roulais beaucoup à vélo pour me transporter, mais aussi parce que c'est un moyen de transport qui est ultra pratique et vraiment voiture dans une ville, c'est juste pas approprié à la ville. Donc voilà, le vélo s'imposait. J'avais déjà cette habitude en Hollande, parce qu'en Hollande, tout le monde a au moins un vélo, voire deux ou trois. Et quand on doit aller à la poste, ou quand on doit aller au supermarché ou n'importe quoi, on prend le vélo, on saute dessus, on se déplace, on revient, on la gare, après on part faire autre chose, on reprend le vélo. Voilà, c'est vraiment un moyen de transport. C'est normal. C'est mode de vie tout à fait normal en Hollande. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est pas étonnant que je me déplace pas mal à vélo. Or, en ce moment, je me trouve dans un petit trou en Auvergne où il y a pas de transport, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de magasin, il n'y a rien.
Et c'est pas très plat non plus.
Non.
Alors, je fais une petite précision, si Mogor dit ça, c'est parce que nous sommes venus depuis la gare avec tout le matériel d'enregistrement.
Depuis la gare de Moulins.
À la gare de Moulins, nous sommes venus à vélo, nous avons fait 40 km à vélo.
Je tiens à préciser, nous sommes venus avec tout le matériel d'enregistrement. Je suis venu en traînant tout le matériel d'enregistrement et vous nous êtes venus avec vos bagages.
Qui est le camionneur ici?
Qui est le camionneur?
Voilà, donc je dois dire que quand ils sont arrivés chez moi, grincheux, il avait toutes les matériaux, l'émission et tout ça. Donc, le pauvre gars, il était quand même bien en âge.
Bien chargé.
Donc, voilà.
J'ai une question. Sur quoi roulais-tu? Puisque tu disais en ce moment pas trop, mais est-ce que tu peux nous décrire peut-être tes vélos, si t'en as plusieurs?
Ton écurie.
J'en ai toujours 5.
Ah,
je n'arrive pas à m'en débrasser. À Paris, quand j'allais me déplacer dans mon petit restaurant que j'avais là-bas, j'avais acheté un vélo électrique parce que je me suis fait tirer mon petit vélo bas de gamme d'une certaine marque que je cite pas.
On les cite, tu sais, tu peux y aller, hein, y a pas de problème.
C'est la marque bleue.
Ah d'accord, oui, ok.
Et c'est des vélos tellement passe-partout qu'ils sont volés le plus au monde, je crois.
Oui, bah c'est facile à revendre, même en pièces détachées, voilà. J'imagine.
Donc, je me suis fait tirer mon vélo et puis je me suis reconfortée avec un vélo électrique pour bien me mettre en forme. Et une fois que j'étais bien en forme, je trouvais que j'avais bien mérité un beau vélo. Donc, je me suis fait faire un vélo sur mesure.
Ah ah, la classe!
Cadre acier, couleur digne Betty Boop, rouge et noir, à ma taille, vraiment le vélo, avec un courroie d'ailleurs.
Oui, ça c'était très très étonnant. Enfin, moi c'était la première fois, et même peut-être le seul vélo que j'ai vu comme ça.
Oui, il y a beaucoup de gens qui s'étonnent là-dessus, effectivement.
C'est quoi les avantages ou les inconvénients d'une courroie? C'est quoi la différence?
Déjà, tout premièrement, le silence. Le silence, quand on roule avec ce vélo, c'est impressionnant. On n'entend pas le grincement d'une chaîne, ni rien du tout. D'ailleurs, cette courroie a une longévité qui est extraordinaire. D'ailleurs, ils sont aussi utilisés pour la Harley Davidson.
D'accord, parce que j'avais peur que ce soit un petit peu fragile. La chaîne, ça paraît solide, en fait.
Pas du tout. Et voilà, c'est un vélo qui n'a aucun entretien, c'est très simple en utilisation. Donc
t'es motivé à rouler dessus quand
je me suis toujours régalée avec ce vélo, c'est super.
Moi j'ai un souvenir, tu venais d'arriver à Lyon et on était en plein hiver, tu venais d'arriver et moi j'étais sur le pont de la Guillotière, je crois, et je vois au loin une femme sur un petit vélo rouge, puis je m'approche, puis je vois qu'elle est habillée de façon relativement légère, pas très chaudement, alors qu'il caillait franchement très, très
c'est
fort.
C'est ce que pensait tout le monde, mais c'était vrai du tout.
Et puis,
surtout quand tu pédales.
En petite chaussette basse, avec un pantalon court, on voyait tes chevilles. Je m'approche et
attention
je vois.
Attention à ta femme.
Émotion.
Je m'approche, je vois, tiens, un vélo rouge. Tiens, c'est marrant. Donc de derrière, c'est marrant, tiens, un vélo à courroie. C'est pas courant. Et puis j'arrive au feu. Oh Betty, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'as pas froid comme ça? Et toi t'étais transi de froid parce que tu venais d'arriver. T'attendais que
à Lyon il fait chaud.
L'hiver.
T'es arrivé avec une petite valise d'affaires. Et le froid était tombé brutalement et toi t'attendais que ton colis de déménagement arrive et toutes tes affaires chaudes d'hiver étaient dedans.
Mais c'était horrible. Je vis que mes affaires d'été et l'hiver à Lyon était tombé tellement rapidement. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que moi, dans mon esprit, c'était Lyon, il fait chaud, parce que c'est dans le sud, tu vois.
Voilà, donc je garde ce souvenir de toi sur ton vélo, là, comme ça, en train de frigorifier, en train de essayer de te réchauffer.
Bah, ça fait pédaler, du coup.
Et du coup, tu pédales plus, tu te réchauffes. Alors, tu as mentionné rapidement tout à l'heure, t'as mentionné que t'avais un restaurant à un moment, et alors comment on
excuse-moi,
passe...
je vais peut-être... On en était au vélo, tu avais donc dit que tu avais un vélo électrique, tu avais ton vélo rouge, mais il y en a trois autres dont tu ne nous as pas parlé.
Oui. J'ai aussi un Orbéen ultra léger.
Oui, sur lequel j'ai bavé pendant de longues heures.
Oui, ben, tu peux l'admirer parce qu'il est au grenier, donc demain on va faire un tour au grenier. Et tu peux l'admirer encore et encore.
Il n'est pas du tout à ma taille, vu qu'on a à peu près 3
centimètres
de différence.
C'est exactement la réflexion que j'allais te faire. Il est trop petit pour toi.
Beaucoup trop petit.
Dommage.
Et puis, quand j'étais en Australie pour faire un voyage, j'ai trouvé un petit vélo pliant blanc que je trouvais extraordinaire, que j'appelle mon kangourou. Et ce vélo, je l'ai toujours. Et puis, un jour, je suis tombée sur un mec hollandais qui fait des tours de visite à Paris avec des vélos pliants bleus, Daon. Et au lieu d'entretenir ce vélo, il les vend tous les ans et il rachète d'autres. C'est moins cher pour lui pour, de les vendre et racheter d'autres. Donc, j'ai acheté pour une bouchée de pain 3 petits vélos pliants que je les ai toutes retapés. 2, j'en ai vendu et 1, je l'ai gardé un petit peu par sentimental, par... je voulais le garder, quoi.
Ce que disait Grincheux tout à l'heure te parle beaucoup, alors. Retaper son vélo, le garder...
Oui, voilà, tu sais, je pense que quand on commence à faire du vélo, on tombe forcément dans le panneau de tuning. Tu sais, les gens avec des voitures, ils le faisaient déjà. Et quand on a un vélo, on fait la même chose. On pense que c'est différent. Effectivement, c'est différent dans l'action physique. Je pense aussi que les gens qui font du vélo, ils ont une autre mentalité, mais dans le matériel, ça ressemble aux mecs qui ont des bagnoles, qui mettent plein de trucs là-dessus. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais...
On vient très vite dans le tuning, effectivement.
Oui, voilà. Et les mecs avec des vélos, ils le font aussi, tu vois.
Oui, on peut tomber dans les mêmes travers de...
Ah oui.
On peut tomber dans le sentimental aussi.
Mais moi, je vois ça très bien. Donc, il y a 15 jours de cela, avec Satori, on a été faire le Ventoux avec un Bullitt à chacun. Et on a regardé nos deux Bullitts. Bon, celui de Satori n'était pas le sien, c'était celui que lui avait prêté MacBook. Mais hormis le cadre... On n'avait rien en commun sur les deux vélos. Il y avait le cadre. S'il y avait le moyeu arrière,
c'est très précis. Tu veux dire que la selle, le centre, les pédales, les roues, les pneus.
On a beau avoir un vélo qui s'apparente comme étant le même vélo. Et ben pourtant, on avait tout de différent à part le cadre. Ouais.
Mais je pense que ça c'est aujourd'hui le cycliste, il se démarque un petit peu par son vélo. Je pense que c'est une espèce de mode. Le cycliste d'aujourd'hui se démarque par son vélo, par des accessoires qui montent dessus. Il personnalise son vélo et je pense que c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais avec le vélo, c'est un peu nouveau.
En fait, on se l'approprie chacun, l'extrême étant un peu les fixistes qui ont des vélos très, qui misent beaucoup sur le design. Et
disons qu'en plus, l'avantage, c'est que le vélo nous permet de le faire quand même à un coût relativement réduit par rapport à ce que ça peut engendrer dans la voiture. Voilà,
c'est
exactement
ça. Mais c'est aussi beaucoup plus personnalisé parce que déjà, quand on se déplace à vélo, on se démarque de beaucoup de gens. Et donc, quand on se déplace à vélo, sur un vélo qui est totalement personnalisé, on est encore plus dans l'originalité. On est encore...
Oh, quoi, elle s'appête avec son vélo personnalisé. Oh tu fais des ambiances.
Et puis, je rajouterais une chose, c'est que contrairement à la voiture où le tuning a une image beauf de je veux avoir une voiture de rallye, mais je n'ai pas les moyens de me payer une vraie voiture de sport, à vélo, ça a beaucoup plus une connotation. Je cherche à rajouter des éléments de performance et à personnaliser, et c'est plus valorisant que sur la voiture.
Oui, tout à fait.
Et en plus, tu peux surtout avoir plusieurs vélos.
Voilà.
Financièrement, c'est c'est pas comme avoir plusieurs voitures. Le stockage est plus...
Plusieurs vélos, jamais.
Le stockage est plus facile parce que c'est plus petit. Alors, j'ai d'autres... j'ai quelques autres questions pour relancer.
Je m'en doute.
Oui. J'ai une question...
Je me permets de prendre une gorgée de vin.
Vas-y, prépare-toi.
Je refais les niveaux de mon côté.
Exactement. Toujours demander à monsieur silencieux de... s'il peut remplir les carafes.
Ah, mais c'est très chic ici. Il y a même un serveur. Décidément. C'est très, 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 très classe. Alors, j'ai plusieurs questions. J'ai une question qui me provient de mes camarades. Tu es vraiment de bonne composition et de bonne humeur. Est-ce que c'est le vélo qui te donne ta bonne humeur permanente ?
Je suis désolée, je dois vous décevoir. Je pense que je suis déjà une bête qui a été toujours et qui est toujours de bonne humeur. Ça n'a rien à voir avec le vélo.
Oh.
Oui, je vous déçois maintenant, je sais. Vous êtes beaucoup moins amoureux de moi maintenant, je sais. Mais ça fait presque un an que je fais... presque plus de vélo parce que étant donné que j'habite dans une région qui est très vallonnée, je suis très débordée parce que tout à l'heure on parlait qu'est-ce que je fais maintenant. J'ai acheté une très vieille maison qui date d'à peu près 1850. Je suis en train de retaper cette maison pour en faire des chambres d'hôtes et puis recevoir des cyclistes en cyclotourisme.
Aha.
Donc j'ai beaucoup de travail pour taper ça, j'achète des matériaux, donc j'avais besoin à nouveau d'une voiture, j'ai acheté une voiture, je me déplace beaucoup plus en voiture, et donc le vélo, je le fais plus beaucoup, je vais m'y remettre. Je vous promets, je vais m'y remettre.
Mais tu es quand même de bonne humeur, donc.
Toujours.
C'est ta nature, finalement.
Mais
c'est
moi. Je crois que déjà, de toute façon, on va s'y remettre demain, d'après ce qu'on a dit. Hein, on a quelque chose de prévu.
Voilà. Oui, mais ça fait que 50 mètres, donc ça va.
Voilà, ça va aller.
Tu parles du dénivelé ou t'as dit
oui, je parle d'ouverture du bar au coin de la rue ici. C'est le seul et unique commerce dans à peu près 8 km d'environnement, tu vois. Et il va ouvrir demain. Donc, j'habite à 50, bon, mettons 100 mètres, et ils veulent m'y emmener sur le plateau de Bulit.
Ah, ça serait tout à fait la classe!
Je pense.
Alors, dire sur le plateau, c'est quand même très réducteur. Le Bulit est quand même équipé d'un siège.
Ah,
tout confort.
Super, merci!
C'est vrai, j'ai testé pour toi et c'est.
Mais je me souviens encore quand tu étais venue chez moi à Lyon.
Exact.
Quand tu étais enceinte jusqu'aux yeux et puis Grinchu, il t'emmenait sur le Bulit chez moi.
Oui. Alors, je dois parler de cet exploit personnel.
Tu l'as maudit d'ailleurs.
Nous sommes venus chez Betty. J'étais enceinte, j'étais sur le plateau du Bulit et il y avait quand même le petit siège pour le confort. Et entre les jambes, j'avais, donc ce qui limitait
toute la
position, j'avais de la nourriture, à savoir. Une espèce de grand saladier de salade de fruits et un coulibiac encore chaud. Un coulibiac, c'est une sorte de gros feuilleté de saumon. Et c'était quand même assez stressant de circuler dans la rue au milieu des voitures. Ça fait
sur 8 km quand même.
Sur 10 bornes et surtout sur 30 cm de haut parce que c'est très très bas. Donc on sent bien les bosses, les creux dans la route.
Oui.
Et on a fait le retour. Non, le retour, pardon, on ne l'a pas fait. J'ai demandé à ce qu'on appelle un taxi parce que j'étais quand même enceinte.
Oui, tu étais rentrée en taxi, oui.
Et on est venu rechercher le vélo plus tard. Oui, il était tard.
Ouais, bon, avec un petit coup de...
Mais c'était une très bonne soirée, j'en garde un bon souvenir et j'ai l'impression d'avoir fait un peu le grand 8 du coup sur le Bulit.
C'était génial cette soirée.
Du coup, j'ai d'autres questions, moins dans le fun, mais...
Mais je t'invite.
Quel est ton sentiment de néerlandaise sur le vélo en France ? La vision qu'on en a,
Très mitigé. Ce que je reproche aux Français, c'est qu'ils voient le vélo comme une espèce de compétition de vitesse, de sport. Moi, j'aimerais bien que les Français changent un petit peu de bord. Ils voient le vélo comme juste un moyen de transport.
Parmi les autres, l'aspect
oui,
pratique.
Oui, voilà. Il y a des bus, il y a des taxis, des voitures, il y a des vélos, des scooters, voilà quoi. Mais ils sont en train de se faire des high-fives là en l'air.
Grinchu et moi qui sommes en train de nous faire des high-fives parce qu'on est tout à fait d'accord avec cette vision.
Oui, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage parce que les Français, ils, quand ils parlent de vélo, ils parlent tout de suite de s'équiper de lycra, des trucs...
De sport, alors.
Absolument pas sexy, des trucs horrible. Tandis que moi, quand je me déplace à vélo, j'ai toujours mis un point d'honneur de rester la femme que j'étais toujours. Ça veut dire, si je peux le dire de moi-même, quand même relativement bien habillée, maquillée, apprêtée, élégante. Quoi.
Apprêtée, oui.
Et je comprends pas que les Français ne peuvent pas voir cette chose-là comme
alors,
ça.
Alors du coup, j'ai une question pour rebondir là-dessus, qui est quel conseil donnerais-tu aux femmes qui veulent rouler?
Ben, les femmes qui veulent rouler, elles doivent surtout abandonner l'idée que le vélo, c'est un truc complètement sportif et tout ça. Ça dépend du trajet qu'on fait. Quand on a un trajet qui est 6, 7, 8, 10, 15 kilomètres, pas trop difficile, on peut toujours être élégante, rouler en jupe. Les femmes me disent souvent, mais comment ça se fait que tu es en jupe assez courte, des jolies bottes, et puis les jambes, t'as pas froid aux jambes? Non, parce que j'achète des collants 300 deniers, et puis on n'a pas froid, on n'a pas froid.
Je dois t'avouer que depuis que je t'ai rencontrée, au début je t'ai demandé ça, et maintenant je roule moi-même en jupe et en petites chaussures.
Voilà.
Et parfois je dépasse des types qui sont un petit peu vexés.
Mais voilà, on peut tout à fait être bien habillé et faire du vélo. On n'a pas besoin de se déguiser en Tour de France, je sais pas quoi.
Alors, non. Je voudrais juste rajouter une chose sur ta vision du vélo en France. Voilà, il y a deux visions du vélo en France de mon point de vue. Donc comme tu le dis, le côté sportif et l'autre côté, c'est la balade deux fois dans l'année, au printemps ou au début de l'été, quand il fait pas trop chaud, mais plus trop froid, en famille, à la campagne. Et oui. En dehors de ça, le vélo n'existe pas.
Ah oui, le loisir en fait.
Le vélo loisir en famille. On apprend aux enfants à faire du vélo et on les emmène faire un petit tour en forêt, sur une petite route de forêt, et c'est deux fois dans l'année et basta.
Mais je pense surtout que le vélo, c'est une espèce d'éducation pour les enfants. Si on s'apprête, si on pense qu'on peut éduquer des enfants avec l'existence de vélo comme une chose tout à fait normale, sans que ça soit un sport extrême ou sans que ça soit quelque chose d'extraordinaire, mais juste quelque chose pour se déplacer, quand on commence par là, les enfants, ils ont déjà inculqué dans leur éducation que vélo, ça sert à plein de choses.
Et ça peut être aussi la manière d'inculquer la valeur de l'effort?
Oui, aussi, ce qui est très important dans l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, on parle toujours, oui, les enfants, ils veulent toujours tout et pour rien du tout. Mais effectivement, quand on fait du vélo, ça veut dire qu'on doit pédaler pour aller de A à Z.
Et qu'on doit monter la côte pour aller voir Betty.
Par exemple.
Pour pouvoir s'installer au coin du
D'ailleurs, je vous remercie éperdument d'avoir fait cet effort parce que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et vraiment, vous me manquiez, donc voilà, je suis ravie que vous êtes là.
Bah, ça valait le coup, écoute, on ne regrette pas. Alors j'ai encore quelques questions.
Oh, encore.
T'as sticoté, mais c'est
tu
bien.
Tu me lâches pas. Hein.
Non, je te lâche pas, j'ai encore trois questions. J'ai une question par rapport au côté sportif. Donc tu trouves que le lycra, les petits cuissards moulants, c'est pas du tout sexy?
J'en connais une autre, c'est pas du tout le cas.
Tu as le droit de passer ça. Tu préfères les hommes élégants plutôt que les hommes en cuissard moulant.
Tout ce lycra, ça peut être super intéressant quand tu as un mec 2 mètres de haut, bien baraqué, avec un joli petit cul, des cuisses à toute épreuve et tout ça. Ça peut être hyper sexy.
Alors, il y a les deux chroniqueurs, il y a Grinch et Proculus qui sont en train de faire des mimiques,
des
de gonfler les biceps, de rouler des mécaniques, voilà, il faut quand même le dire.
Tandis que mon fiancé, il cherche des muscles et tout ça.
Ton fiancé est en train de se rouler par terre de rire en nous voyant faire les singes.
Il se moque éperdument des Français.
Je suis pas sûre que Betty pensait à vous quand elle décrivait ça.
Ah bon?
Je ne vais pas dévoiler votre physique d'athlète, mais...
Mon gars, je trouve que tu es très dur avec ces hommes-là.
Ouais, bah comme jusqu'à ton interview, j'étais la seule femme dans cette émission, du coup,
voilà.
Je peux me permettre.
Non, mais bon, le lycra, ça peut être sexy, évidemment. Un sportif, un bon sportif, c'est toujours sexy à voir. Mais on n'a pas besoin de voir le vélo toujours sexy de ce côté-là. Je pense que voir des gens habillés style ville ou normales qui font du vélo, ça peut être éperdument beau, intéressant, sexy, voilà.
Intégré à la vie courante. Alors, il me reste deux questions. Mon avant-dernière question est assez simple. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le vélo ?
Oh, monter.
Dis une femme qui habitait dans une rue assez en pente. Non,
mais oui, mais bon, je suis quand même hollandaise, donc tout est plat là-bas. Je suis pas éduquée avec des petites collines, tu vois. Donc pour moi, en tant qu'hollandaise, un dodan, ça fait déjà pas mal. Mais bon, c'est vrai qu'on s'habitue aussi, parce que quand j'habitais à Paris, quand je rentrais de mon travail, j'avais à grimper la rue de Clichy. Je peux te dire que c'était difficile. Donc là-bas, je me suis quand même mis en forme pour le vélo, à vrai dire, hein, parce que je me déplaçais énormément. Je faisais tous les jours 14 km aller et le retour pour le travail, donc ça fait 28.
Et t'étais parfois chargée en plus, il me semble.
Donc. Souvent, parce que j'allais à la MAP chercher des légumes pour mon petit restaurant, donc ça me faisait un détour en total de 10 km et en revenant avec souvent 15 kg, 20 kg de légumes. Et dès que je rentrais chez moi, je prenais ma petite douche, il y avait une copine qui téléphonait, tu viens me prendre l'apéro, je sautais sur mon vélo comme une vraie Hollandaise et je partais boire l'apéro à gauche, à droite, au cinéma ou des choses comme ça. Donc j'utilisais le vélo quotidiennement, je faisais 40 km par jour facilement.
Donc on imagine tes mollets d'acier. Et du coup, j'ai une dernière question sur tes projets. Parce que tu disais que tu avais une maison qui était de quelques siècles, que tu retapais, et que tu pourrais accueillir des vélos dans une sorte de gîte, enfin pardon, des vélos, surtout des cyclistes. Mais donc, est-ce que tu peux nous en dire plus pour nous faire revenir ?
Oui, bien sûr, je veux bien que tout le monde va revenir. Parce que, premièrement, cette maison est destinée à recevoir des gens qui veulent venir en vacances pour découvrir la région.
Alors, à titre indicatif, donc moi j'ai particulièrement apprécié les côtes, et je peux dire à tous les cyclistes qui écoutent ce podcast que franchement, l'Auvergne pour rouler, c'est d'enfer. Voilà.
C'est top. C'est vrai. Parce que c'est vrai que le paysage est magnifique. C'est vrai. Et ça vaut l'effort. Donc, je reçois déjà pas mal de gens de Warm Showers. Parce que je fais partie de Warm Showers. Aussi de Couchsurfing. Mais Couchsurfing, bon, les gens, ils vont plutôt dans les villes et tout ça. Mais les gens de Warm Showers, ça veut dire, pour les gens qui ne savent pas, c'est des cyclistes qui se déplacent en voyageant. Et qui vont dormir gratuitement chez l'habitant qui trouve par un site internet qui s'appelle warmshowers.org. Je reçois beaucoup de gens de Warm Showers parce que je suis dans une région où il n'y en a pas beaucoup qui reçoivent. Et bon, vu que j'ai quand même de matériel technique, pieds d'atelier, des outils et tout ça, vu mon histoire dans le passé copropriétaire d'un magasin de vélo, j'ai quand même pas mal de matériel et puis les gens, ils aiment bien passer ici pour dormir ici parce que c'est une des seules adresses qu'ils trouvent dans cette région. Et puis les gens, souvent, ils restent scotchés plusieurs jours parce qu'ils trouvent que c'est bien ici. Voilà. Donc ça, c'est une partie ce que je veux faire. Et sinon, je veux recevoir des groupes, des petits groupes qui souhaitent découvrir la région, ou des touristes, des familles, voilà.
Juste une question, c'est pas Warm Shower que tu as accueilli cette famille quadruplette qui a fait un billet de blog
Oui, magnifique souvenir. C'était une petite famille adorable, qui avait tellement marre de leur poste de travail où ils travaillaient 11 heures par jour en Australie. Donc, ils ont tous les deux démissionné de leur travail. Lui était architecte, elle était dans le social. Et ils ont déscolarisé leurs deux enfants. Et ils ont parti, ils ont vendu leur maison. Ils ont acheté un vélo qui pouvait soit en faire un vélo pour deux personnes ou pour une personne, soit un vélo pour deux personnes, soit pour quatre. C'était extraordinaire. Wow. Et ils ont voyagé comme ça dans Asie. Et puis après, ils sont partis en Europe. Et donc, moi, je les ai accueillis ici pour deux jours. Normalement, c'était pour une nuit, pour une journée. Et puis, ils avaient un rendez-vous avec des amis dans le Nièvre. Et ces amis ont eu un accident. Et le monsieur était hospitalisé. Ah, et donc, ils ont décidé de rester une nuit. Et voilà, ils ont resté là. Ils étaient ravis et puis ils veulent revenir un jour.
Bah, j'imagine. Et donc, je te re-questionne sur tes projets parce que tu m'as dit que t'allais installer un confort incroyable.
Oui, bon.
Bah, moi, j'ai entendu parler d'un...
Oui, normalement, je te vois venir, mon gars.
Ouais. En fait, je reviendrai dans 2 ans.
L'invitation y est déjà, tu le sais très bien.
Moi, je reviendrai avant pour voir l'évolution. Et
merci
puis...
beaucoup. Comme ça, tu aurais l'impression que tu viendrais pas uniquement pour le sauna.
Oui, et puis attention, parce que tu vas peut-être porter 2-3 sacs de plâtre aussi.
Ça, ça me dérange pas. Et puis, je ramènerai du fromage dans mes bagages, sûrement.
Voilà. Donc, j'ai un grenier qui fait 260 mètres carrés, où je vais certainement, à partir d'avril à peu près, en tout cas, c'est mon but, avoir 2 grands dortoirs. Donc, je vais pouvoir accueillir à partir d'avril, normalement, autour de 12-14 personnes. Puis ensuite, on va faire une chambre familiale et on va faire un espace sauna avec un espace relax. Donc, Mogor.
C'est cet espace que j'attends avec impatience.
Sauna ou jacuzzi ?
Sauna.
Parce que depuis quelques temps où Mogor a découvert les joies du jacuzzi, elle a fantasmé sur ses bains bouillonnants. Et donc, je voulais juste cette précision.
C'est un de mes buts dans la vie de posséder un jacuzzi ou un spa chez moi. Mais je ne sais pas si ça arrivera, mais bon.
Bah, quand tu habites en appartement, il faut quand même
ton proprio risque de pas être d'accord.
Effectivement.
Donc, voilà. Non, mais ça va être un sauna où les gens peuvent prendre un sauna. Un bain de sauna et puis se relaxer.
Se délasser un petit peu après l'effort si justement ils veulent faire des balades. Que ça soit d'ailleurs à pied parce qu'en fait nous on est cyclistes mais on peut randonner.
N'importe qui parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans la région qui sont habitués à fréquenter les saunas sauf qu'il n'y en a pas ici.
Ah d'accord, donc en fait il y a
les habitants
des gens
dans
qui, viendraient,
bleds, oui, voilà.
qui viendraient peut-être pour le sauna ou pour
bien.
Faire un week-end peut-être en amoureux par exemple. Ou...
Il se peut, mais aussi des gens qui veulent juste passer une soirée au sauna qui veulent venir me voir.
Rockinus rigole comme un bossu.
Non, j'ai commencé à avoir des idées qui viennent. Bref, on passe à autre chose.
Une imagination trop fertile, sans doute. Donc, du coup, ça serait en mode gîte.
Chambre d'hôte, plutôt.
En mode chambre d'hôte. Donc
Il va y avoir une cuisine, une salle à manger. Les gens, ils peuvent faire leur propre popote.
D'accord.
Et il y a toutes les sanitaires qu'ils ont besoin. Et puis, je projette aussi de créer dans mon garage un coin réparation vélo donc avec tous les outils et un pied d'atelier où les cyclistes qui passent par là peuvent entretenir leur vélo reposer
top,
avant de repartir parce qu'ici on est quand même dans le centre de la France bien que ça s'appelle pas le centre mais quand tu regardes géographiquement tu vois bien que cette région est vraiment
centrale
vraiment très centrale en France et donc les gens qui viennent ici, ils ont déjà beaucoup de kilomètres dans les pattes.
Je corrige, Betty. Lorsqu'on a fait les trajets et la cartographie pour venir ici, très facilement, dès qu'on commençait à remonter la carte, on tombait sur Bourges, qui est donné pour être le centre de la France. Donc, même si c'est pas dit que c'est le centre de la France, c'est très très proche. Hein.
Oui, bon, Bourges, c'est à 80 kilomètres d'ici.
Voilà,
tu vois.
C'est très
donc,
proche.
Donc, sur une surface de la France qui fait je ne sais pas combien, on peut considérer que là où j'habite, c'est vraiment sensiblement le centre de la France.
On est bien d'accord.
Donc, je résume. Au centre de la France, tu prépares, t'es en plein dans les travaux, vous êtes en plein dans les travaux, parce que heureusement pour toi, tu n'es pas toute seule avec Monsieur Betty.
Monsieur Boop, voilà.
Monsieur Boop, faut l'imaginer, voilà, dans votre tête. Donc, tu prépares une chambre d'hôte avec un dortoir. Il y aura également deux dortoirs. Il y aura également par la suite une chambre familiale pour les familles qui veulent loger
être
ensemble.
Être séparées, voilà.
Il y aura des super sanitaires, on en a testé et pour l'instant ils sont super. Et ça sera en plus cycle amical, c'est-à-dire qu'on peut venir en vélo facilement et on pourra même entretenir.
Il y a les moyens pour entretenir le vélo, réparer ce qu'il y a à réparer. Je songe à m'acheter des pièces de vélo comme des styles cap de frein ou cap de vitesse ou des choses comme ça, chambre à air, tout ça, pour que les gens puissent, quand ils arrivent le soir, ils doivent repartir le lendemain, qu'ils puissent au moins réparer leur vélo de telle manière qu'ils peuvent continuer leur chemin.
Pour l'anecdote, là on est en avril et il fait déjà bien doux.
On est en mai. Mais
on est en mai, excusez-moi, j'ai des petits problèmes temporaires.
Il y a le rosé qui commence à taper très fort sur la tête de Mog.
Donc, non, c'est le vin rouge.
Au lieu de vous moquer, donc en fait, l'anecdote, c'est surtout qu'on a été dans le sud un été et moi, j'ai ma chambre à air qui a explosé, a priori, avec la chaleur et la dilatation. Donc, prévois des chambres à air s'il fait chaud l'été ici.
Oui, mais c'est ça.
Ça peut servir.
Mais j'ai déjà eu des cyclistes parce que, bon, vu mon passé, j'ai un grand carton avec des pièces en vrac et j'ai déjà eu des cyclistes qui avaient un petit problème sur leur vélo et puis, bon.
Tiens, bah, à ce propos, est-ce que.
Tu as un porte-biberon
C'est ça. Est-ce que voilà. Demain
super chacal power.
Non mais
je
bon.
Je ne suis pas comme ça. On a réussi à venir jusqu'ici avec des vélos qui fonctionnent.
Non, mais c'est quand même bien c'est de top. Pouvoir dépanner des gens avec quelque chose qui est utile. Donc, tant qu'à faire, quand on a un pied d'atelier et tout ça, bon. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. De toute façon, tu restes avec nous pour.
Jusqu'à la fin.
Pour la suite.
Je reste
donc,
avec
n'hésite
vous.
Pas voilà, à poser des questions ou à commenter ce qu'on raconte. Et
super.
Merci beaucoup.
Bon, et ben donc ça va être à moi de prendre un petit peu la suite. Ça va être un petit peu moins joyeux parce que je vais vous parler du protocole à suivre en cas d'accident. Rassurez-vous, je ne veux pas faire mon oiseau de mauvaise augure. Déjà que la dernière fois, j'ai dû un petit peu vous plomber le moral. Mais il me semblait utile de vous faire un petit point sur ce qu'il est nécessaire de faire ou de ne pas faire lorsque ben, on part casser du bois. C'est un peu cynique à dire, mais tout cycliste risque un jour d'être confronté à l'accident. Alors, dédramatisons, accident, ça ne veut pas dire forcément accident grave.
On a tous déjà eu un accident, ils y pensent ?
Alors, je vais y venir. Pardon. Ce sujet risque de vous paraître donc alarmiste, mais je veux pas que vous commenciez à flipper. Il faut que vous gardiez en tête que les complications sont généralement rares. Je pense que je dois néanmoins couvrir tous les cas d'accidents qui peuvent survenir pour mieux préparer les cyclistes qui nous écoutent aux impondérables futurs. Voilà. Ça peut aller un accident, ça peut aller de la simple culbute qui va blesser que l'amour propre au carton aux conséquences sérieuses. Voilà. La gravité va varier surtout en fonction de la pratique, de la prudence et de la prévoyance du cycliste.
Je suis désolé, mais là tu emploies le mot culbute, c'est pas possible.
Vu le niveau éthylique, d'accord. Ok, je comprends mieux. Alors, j'étais sur le point de dire, il faut savoir que lorsque j'ai préparé la chronique, j'ai dit, bon, de toute façon, à cette table, tout le monde y est passé. Et j'ai commencé à dire, bon, bah, de toute façon, Grincheux, lui, il est nommé dans la catégorie effets spéciaux avec, oh, regarde, je fais des étincelles avec mon bullet dans les S de la Croix-Rousse. Voilà. Bogor, elle, c'est dans la catégorie piège vicieux avec le retour de la jante en 23C versus le joint de dilatation du pont Clémenceau.
Et puis quand il était en quête d'une histoire bien juteuse, il m'a dit
Alors Betty. Attends, parce que moi j'allais dire bon bah ok, moi il y a mon histoire catégorie inconscience grave avec couper la route à une 205 à 90 km/h sur une nationale, même pas mal. Mais et puis là j'ai dit à Betty, bon Betty, toi aussi tu dois bien avoir eu un carton. Puis elle me fait, elle attend 5 bonnes minutes. Je la vois qui cherche dans sa tête, et bah non, j'ai jamais eu vraiment d'accident. Donc du coup, elle m'a cassé tout mon effet.
Ta-da !
Donc à cette table, presque tous ils sont passés, sauf Betty qui elle n'a jamais eu d'accident. Voilà. Comme quoi, il faut bien une exception qui confirme la règle. Et quoi de mieux que d'avoir comme exception Betty. Voilà. Donc en préambule pour mon dossier concernant les accidents de trajet, je vais vous parler de l'accident de trajet. Je vais rappeler ici un fait très important avec 4 E accent grave, un fait très important qu'encore trop de gens ignorent. Les personnes victimes d'un accident lors du déplacement domicile-travail sont couvertes par un dispositif particulier. Les frais médicaux sont pris en charge, les indemnités journalières aussi. Elles sont bien plus avantageuses qu'en cas d'un simple arrêt maladie. C'est ce qu'on appelle l'accident de trajet. C'est un dispositif qui est voisin de l'accident du travail. L'handicap éventuel qui peut suivre suite à un accident de trajet sera également mieux reconnu que lors d'un simple accident domestique. Dans certains cas, les personnes en formation professionnelle, comme les stagiaires Pôle emploi ou les élèves de lycée pro, sont concernées aussi. Il faut se renseigner au cas par cas. Concrètement, qu'est-ce qu'un accident de trajet ? Si vous avez un accident sur votre trajet professionnel, celui qui vous mène de votre domicile à votre lieu de métier, là où vous allez travailler...
Sans écart, parce que...
Attends, je vais y venir, attention ! Et que vous êtes blessé durant ce trajet, même légèrement, vous devez contacter votre employeur pour le signaler. Votre employeur doit en tous les cas se tenir à votre disposition ce qu'on appelle en jargon la liasse, c'est-à-dire un carnet de fiches de prise en charge à l'aide de laquelle vous réglerez les différents praticiens qui vont vous traiter pour les différentes blessures qui viendront de cet accident.
Alors concrètement, il n'y a plus de liasse. Il y a un des volets de la déclaration d'accident que l'on présente aux différents médecins qui va compléter une ligne dedans et qui va...
Ça a évolué alors.
Voilà, il n'y a plus qu'un seul feuillet à garder précieusement.
Voilà, mon accident de trajet remonte à plus de 4 ans, donc depuis ça a changé. Ok. Dans tous les cas, c'est très très intéressant parce que avec cette liasse ou avec ce volet, hop, pas d'avance de frais, vous ne payez rien. Donc, une dernière précision, et ça à l'intention de mon camarade grincheux, vous allez souvent entendre tout un chacun vous dire qu'un détour, ça fait péter la couverture AT, donc accident du travail, et qu'il faut que le trajet soit le plus direct possible, etc. Bon. Eh bien, désolé grincheux, mais c'est de la connerie en barre.
Non mais justement, je voulais y venir parce que j'ai eu...
Ah, tu as eu le cas aussi.
Pas à vélo, mais j'ai eu le cas où j'ai fait un léger détour et j'ai dû faire moult déclarations en expliquant que je n'avais pas fait ce trajet pour faire la course que je faisais, mais que comme tout un chacun, j'ai fait 50 mètres de détour pour aller mettre une lettre à la poste.
Et donc, tu étais couvert car le texte de loi prévoit que le trajet qui est couvert par l'accident de travail peut impliquer un détour ayant attrait deux points, ouvrez les guillemets, je cite le texte de loi, donc un détour ayant attrait aux nécessités de la vie courante, ce qui englobe effectivement déposer une lettre à la poste, aller acheter du pain ou aller chercher les gosses à l'école. Voilà. Dans tous les cas, n'écoutez pas les je sais tout qui vous diront ce n'est pas la peine de le faire, etc. Écoutez-moi, écoutez votre bon tonton proc, car votre bon tonton proc vous aime.
Demandez et surtout les bons textes de loi.
Voilà, demandez toujours à votre taf de déclarer l'accident de trajet. Au pire, ça ne vous nuira pas. Qui ne tente rien à rien, demandez-le. Après, c'est vrai que si vous êtes parti direct du taf en direction de la gare et de là le Périgord pour aller voir mémé, vous n'y comptez pas trop tout de même. Hein. Voilà.
Oui, il y a quand même des bornes à pas dépasser.
Voilà. Bon, maintenant, je vais voir quelques cas d'accidents typiques. Je vais partir du plus simple et puis selon le cas, je détaillerai un petit peu. Donc, le cas le plus courant, la chute seule. Même le cycliste le plus chevronné, qui a une grande expérience, peut chuter si jamais il croise par malheur la route d'une flaque de gasoil ou d'une plaque de verglas planquée
surtout,
dans l'ombre.
Surtout le lendemain d'avoir enlevé les pneus cloutés.
Tu dis ça pour qui ? Tu dis ça pour qui ? Pour qui tu dis ça ? Attention, méfie-toi.
On ne sait pas.
Ça va. C'est pas parce que je sors les vieux dossiers que vous êtes obligés de faire pareil. Donc, c'est vrai que même le cycliste le plus chevronné peut toujours rencontrer une surface glissante et se casser la figure. Une roue qui ripe et puis c'est le meilleur moyen de partir au tas. Si cela vous arrive, le plus important sur le moment, c'est d'abord de regarder si vous n'êtes pas dans le trafic ou sur une trajectoire d'autres usagers. C'est le point numéro 1. Si vous êtes sur le bas-côté sur le trottoir, rien ne presse à la seconde près. Si, par contre, vous êtes sur la chaussée, essayez de vous dégager rapidement du passage. Avouez que ça serait sacrément bête de tomber sans se faire mal et de finir sous les roues d'un bus. Ça peut se discuter ensuite, mais personnellement, je vous conseillerais d'embarquer votre vélo, votre précieux avec vous, pour plusieurs raisons. Il vous servira de béquille si vous avez du mal à marcher. Et croyez-moi, même si vous n'êtes pas blessé, sur le coup, vous aurez du mal à marcher. Parce que la crispation en attente de la douleur au moment de l'impact, le coup reçu et l'adrénaline, ça vous aura en partie tétanisé les muscles. C'est normal, comme disait l'obstétricien de Cavana. Deuxième point, pourquoi il vaut mieux embarquer son vélo ? Étant plus volumineux, vous serez en théorie plus visible avec. Je vous rappelle
et
que vous êtes censé...
Et pour éviter de se faire voler.
Oui, oui, non, mais là, on parle juste du moment où on chute sur la chaussée. Hein. Juste...
Ça peut aller vite. Hein.
Ça peut aller très vite, effectivement. Donc, j'allais justement y venir. Donc, étant plus volumineux, on sera plus, en théorie, plus visible avec. Surtout si vous avez les catadiopes adéquates. Et pour finir, effectivement, ça permet de mettre à l'abri votre matériel parfois très onéreux, que ce soit à l'abri du vol ou que ce soit à l'abri du bus qui va passer derrière qui va lui rouler dessus. Voilà.
Et c'est civique, comme ça, tu n'abîmes pas le bus et tu ne gâches pas le trajet des 50 personnes dedans.
Exactement. C'est un peu cynique, hein.
C'est quand même super adorable, quoi.
C'est civique ou c'est cynique ?
Un peu les deux. Dans le cas où vous ne pouvez bouger, rassurez-vous, c'est rare, il importe de se signaler et de demander de l'aide au moins pour vous mettre à l'abri.
J'ai une question, tu ne peux pas bouger, mais il faut que tu te signales, comment tu fais ?
Alors, ce que je voulais dire par
toujours
là, c'est
avoir
que si
un feu de détresse dans la main.
Concrètement, si t'as une jambe cassée et que tu peux pas te tirer toi-même du bord de la route, il faut que tu fasses signe à quelqu'un qui s'arrête pour t'aider à te tirer du bord de la route, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Oh là là, celle-là, elle détend tout ce que je dis. Malheureusement, si vous êtes immobilisé sur la route...
Il faudrait prendre des photos, là. Les...
Ah oui, je crois que là, il y a des photos
les,
à prendre.
Les dénettes, elles sont...
Les filles, elles sont... Ah, le vin fait du dégât.
C'est pas un sujet très amusant, on est d'accord.
On est bien d'accord, mais vous avez raison.
Ça valait la peine.
Tout à fait, non, tout à fait. Donc, cela dit, ça veut dire une chose, c'est que si vous êtes dans l'incapacité de vous déplacer alors que vous êtes sur la chaussée, ça veut dire que vous êtes à la merci de vos congénères et surtout de leurs principes moraux, concrètement. Mais vous trouverez toujours quelqu'un d'assez sympa pour vous tirer de la route, hein, je vous rassure. Bon, on va partir du principe que vous êtes à l'abri, au moins temporairement. Il faut donc évaluer les dégâts. La première chose à faire est de constater votre état de santé. Je sais qu'on pense souvent à tort au vélo en premier, because money is money, hein, l'argent c'est l'argent, mais une machine ça se remplace, alors que certaines pathologies prises en retard pourront laisser des séquelles. Après on aura l'air fin à vouloir rouler sur un beau cadre en titane si on a un genou qui plie plus. Donc, si vous avez eu une perte de conscience, même quelques secondes, en théorie, vous devriez être trop désorienté pour savoir combien de temps vous êtes resté dans les vapes. Ou que vous avez un trou de mémoire, vous ne cherchez pas midi à 14h, vous appelez les pompiers direct.
Si, globalement.
Mais tu te souviens pas des numéros, les pompiers ?
Oh, ça reste, si, quand même.
Tu trouves du monde pour se souvenir des numéros des pompiers.
Non, mais
globalement, si tu es blessé, tu appelles les pompiers.
Voilà, mais je
j'ai une question du coup. Quand t'appelles les pompiers, ils font quoi de ton vélo ?
Alors, je vais venir.
Pardon.
Je vais venir. Donc, là-dessus, j'explique pourquoi. Un évanouissement, ça n'est bénin que dans les films. Il faut savoir que les médias nous ont souvent transmis le poncif du poum, je te tape sur la tête, tu tombes dans les vapes, c'est pas grave, tu te réveilles avec un fameux mal de crâne. Le coup du héros qui se fait assommer avant de se réveiller avec la migraine, ça marche qu'avec Bruce Willis. Dans la réalité, c'est une commotion cérébrale, ce qui équivaut souvent à des séquelles. L'évanouissement peut intervenir même sans avoir pété un coup de boule par terre. Ça peut venir d'un coup dans un organe vital, le foie par exemple, et peut signifier des hémorragies internes. Donc, lorsque vous êtes tombé dans les vapes, lorsque vous avez une perte de mobilité d'un membre, ou plus généralement, lorsque vous avez très mal, vous appelez les pompiers. Le 18 ou le 112, si vous n'êtes pas sûr de là où vous êtes. Parce que c'est un numéro qui est international, c'est un numéro qui marche systématiquement sur les portables, alors que le 18 ne marche pas toujours. Voilà. Bon, vous voulez pas laisser votre vélo sur les lieux du crash, ce qui est compréhensible. La plupart du temps, ils embarqueront avec vous. Enfin bon, sauf si, comme Grincheux ou moi, vous avez un cadre XL, là ils vont peut-être un peu rechigner parce que ça prend de la place. Moi j'ai un grand cadre et puis Grincheux a non seulement un grand cadre, mais en plus, bon, avec le cargo, c'est parfois plus long que la camionnette.
C'est une taille unique.
Oh, c'est une taille unique.
J'ai l'impression qu'il veut dire qu'ils sont grands et beaux.
Voilà, voilà, tout à fait, c'est ça.
Nos vélos,
on parlait de nos vélos, bien sûr.
Non, les mecs.
Donc, au pire, même les plus obtus des pompiers accepteront de prendre 3 secondes pour verrouiller votre vélo à la barre la plus proche en attendant que vous ou l'un de vos proches aille le récupérer. Hein. C'est pas un problème. Je rappelle une chose, en ce cas, l'examen technique, c'est après l'hosto. Ou alors c'est votre chéri, frère, meilleur pote qui le fera pendant qu'on vous recollera les morceaux de viande tombés par terre. Mais vous prenez pas 3 secondes pour regarder, dire « Ah, mais là, il est rayé, etc. » Non, vous montez dans le camion et on s'occupe de vous après. Comme je disais, le matos, ça passe après l'humain. Voilà. Bon, on va dire que vous êtes à l'abri, vous pouvez marcher, bouger normalement. Bon, quelques douleurs peuvent signifier que vous avez des bleus, c'est logique. Et sauf en cas d'allergie, l'arnica, la Gaultérie, c'est souverain, n'est-ce pas, Mogor ?
Oui, enfin bon, moi je me suis payé une entorse cervicale, l'arnica n'a pas suffi.
D'accord. Non mais je dis ça parce que toi comme moi, on ne jure que par l'huile essentielle de Gaultérie pour les courbatures. Donc, on va s'atteler à la mécanique. Si votre vélo est assuré, votre compagnie voudra peut-être le voir, donc évitez de le bricoler, même pour finir votre trajet. C'est triste à dire, mais dans certains cas, cela peut vouloir dire le laisser, accrocher quelque part et terminer votre trajet en transport en commun. Mais c'est à ce prix que vous pourrez être remboursé. J'attire votre attention sur le fait que dans les accidents de travail, je parle d'une expérience personnelle, les vélos, tout ce qui est remboursement concernant le matériel, ce n'est pas bien évidemment la sécurité sociale ou votre travail qui va le rembourser, mais votre assurance responsabilité civile peut marcher, et dans ces cas-là, elle contactera l'assurance adverse pour éventuellement faire évaluer votre vélo.
Pour faire évoluer un vélo, soit vous avez la facture d'achat, soit sur des vélos d'occasion, vous pouvez aussi aller voir votre vélociste pour lui faire un proforma d'estimation de la valeur du vélo.
Et il y a un dernier cas, c'est que lorsqu'il y a un accident avec, qui implique un autre usager, vous avez les assureurs qui peuvent envoyer un expert, ce qui est très rigolo parce que généralement, ils vous envoient un expert cycle qui a l'habitude d'évaluer des motos. Mais vous pouvez avoir un expert qui va évaluer vos vélos, ça arrive.
Ah, donc, Ou dans le pire des cas, un expert automoto qui fait 90% de voitures, 10% de motos et
0,5% de vélos.
Ouais, voilà.
Et donc, du coup, Betty, avec ta courroie de Harley Davidson, ça serait cool. Un expert moto.
J'imagine la tête de l'expert. Et c'est quoi votre vélo? C'est un cadre sur mesure, monsieur. Oula. Bon,
bah, t'as la facture.
Si vous n'êtes pas assuré et que les dégâts sont minimes, n'oubliez pas les ateliers associatifs. Ça vous permettra très certainement de pouvoir rafistoler votre destrier pour une poignée de cacahuètes et avec un résultat plus que satisfaisant. Dans tous les cas, certains points à vérifier, j'en ai déjà parlé. Le cadre, donc il a pu bouger, vriller ou fissurer. Si vous êtes des élèves assidus du cyclocast, vous saurez ce qu'il faut vérifier, je le rappelle. Donc, une fissure ou une cassure dans le métal, mais également vérifier, donc insister sur les soudures. Vérifier également que la peinture n'est pas plissée, ce qui va indiquer un déplacement, un vrillage du cadre.
Un point dur dans la direction.
Un point dur dans la direction, ça peut aussi l'indiquer. Voilà. Ensuite, il faudra aussi vérifier les freins. Donc bon, là j'ai pas besoin de détailler pourquoi il faut que les freins marchent avant de repartir.
Oui,
c'est
mais
évident.
Ça dit les freins, nous c'est dit, facile.
Nous dit l'homme qui a des freins en chewing-gum.
Oh, ah, l'autre.
Non mais enfin, par rapport au cadre, les freins c'est plus périphérique. On peut les remettre, changer des trucs, non?
Oui, mais disons qu'en fait il y a des gens qui vérifient pas. Et si tu veux, tu repars. Et puis là, tu vas avouer que c'est quand même un peu bête de devoir au moment où tu vas devoir t'arrêter, devoir finir dans un mur c'est ou dans le bus qui freine devant parce que le frein ne freine pas. Il y a des gens qui pensent pas le regarder.
D'accord.
Il faut les regarder et s'ils ne freinent plus, il faut pas redémarrer. Voilà. Bon, la direction, ben, c'est un peu le même principe que pour le cadre, hein, c'est lié. Le dérailleur. Alors là, c'est plus pour vous éviter une frayeur supplémentaire qu'une autre bûche. Il m'est arrivé par deux fois dans ma carrière de cycliste de voir mon dérailleur finir dans les rayons de la roue arrière à cause d'une patte de dérailleur tordue. En fait, le bruit est horrible. Vous avez la sensation d'avoir un poney mourant de convulsions entre vos jambes. Et c'est aussi terrorisant parce que vous pouvez plus pédaler. Vous avez une perte de contrôle. Et en fait, je crois que j'ai perdu Betty.
Betty se roule par terre.
Et surtout, vous allez perdre instantanément toute votre vitesse et vous risquez d'avoir une grosse berline allemande au dos, dans vos fesses. Donc, généralement, ça fait très très peur. Mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc, une petite note pour... Donc, vérifiez que votre dérailleur est toujours aligné sur le pédalier. Si c'est pas le cas, on pose le vélo et on joue pas à Babozor ou MacGyver. Les pattes de dérailleur sont aujourd'hui en cochonium. Entendez par là de l'aluminium. Betty est en train de crever là, je crois.
Je pense que Betty imagine.
On a perdu Betty.
Imagine-toi chevauchant un poney mourant faisant le bruit du dérailleur dans la roue. Effectivement, ça se comprend.
Voilà. Donc, je disais, les pattes de dérailleur aujourd'hui elles sont en aluminium. Et donc elle ne se redresse pas. C'est encore plus important avec les pattes intégrées au cadre. Donc si vous avez la patte qui est tordue, vous ne redémarrez pas, vous laissez le vélo de côté, vous prenez les transports en commun. Il faut savoir que même dans les grandes enseignes bleues de sport dont Betty nous parlait pour son premier vélo, vous trouverez toujours plein de pattes de dérailleur pas chères et qui seront conformes à ce dont vous avez besoin. Voilà, donc pas besoin de...
Le trafic de la patte de dérailleur n'est pas nécessaire.
Ah, je peux dire que...
j'ai de la patte de dérailleur.
Et je peux même te dire que j'ai farfouillé dans l'atelier de la grande enseigne dont je parle, de la grande enseigne de Décathlon. J'ai fouillé dans leur matos pour pouvoir dégoter ce qu'il me fallait.
Mais tu sais quoi, à Lyon, il y a un magasin qui fabrique des pattes de dérailleur qui n'existent plus.
Ah bon?
Ah oui.
Ah, tiens, tu nous apprends quelque chose là.
Il faut que tu ailles parler à ton vélociste préféré, monsieur que j'appelle pas. Mm-hmm. Ce monsieur-là, il sait que pas trop loin de là-bas, de son magasin, il y a un magasin de vélos et le monsieur, il a pris pour but de faire fabriquer des pattes de dérailleur, des marques ou des vélos qui n'existent
pas. Est-ce que c'est un magasin italien dont tu parles? Non, pas du tout. Un type italien?
Non.
D'accord,
non.
Je confonds alors.
Non, mais Mais c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui veulent retaper un vieux vélo et le problème c'est toujours les dérailleurs, les pattes de dérailleur surtout. Les pattes de dérailleur c'est la galère.
Il y a beaucoup de standards donc c'est très très dur de retrouver effectivement.
Et quand les pattes de dérailleur n'existent plus, avec le vieux pas de dérailleur, tu vas là-bas avec la vieille patte de dérailleur, tu vas là-bas dans ce magasin-là.
Avec la refabrique sur mesure.
Ils ont un grand tableau avec tous les modèles. Tu le compares aux modèles qui sont sur le tableau et ils le font fabriquer.
Et ils s'occupent que des pattes ou est-ce qu'ils... Excuse-moi d'interrompre ton sujet d'accidentologie.
Non, il n'y a pas de problème.
Ou est-ce que ça marche pour le reste, genre les leviers de vitesse ? Ça m'intéresse pour mon vélo alors.
Ça, je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont un énorme tableau.
Très bien.
Avec le type de pattes de dérailleur qu'ils ont déjà rencontré. Et tu vas avec ton patte de dérailleur, tu vas comparer au tableau et puis jusqu'à ce que tu trouves la patte de dérailleur. Et si ton patte de dérailleur
n'est pas
sur ce tableau-là, ils le font fabriquer aussi. Donc ils vont voir le modèle et ils vont le faire fabriquer.
D'accord, merci beaucoup.
Alors, donc j'ai terminé la question donc du choc, enfin de l'accident seul. Je vous invite néanmoins, dans tous les cas, même si a priori il n'y a pas eu de dégâts ni d'un côté ni de l'autre, etc. Je vous invite néanmoins toujours à consulter un médecin. Parce qu'il faut savoir que le refroidissement des muscles et des articulations réveille parfois des douleurs intenses dues à des blessures relativement graves. Si votre accident est dû à un aménagement qui vous semble vicieux, un courrier à la mairie ou une plainte par le biais de votre association de défense du cycliste local est toujours la bienvenue. Maintenant, je vais vous parler de l'accident qui implique un choc avec un véhicule. Il s'agit de l'accident le plus sérieux qui fera hausser les sourcils à tous ceux à qui vous en parlerez, et pour cause. Dans une chute seule, le choc que vous prenez, c'est celui de votre propre vélocité. Dans le cas d'un choc contre un véhicule, c'est sa vitesse plus la vôtre qu'il vous faut prendre en compte. Et à moins d'avoir une ossature de troll vivarois barbu ou de nain de Walt Disney, les dégâts risquent d'être plus importants. Concrètement, le cheminement doit être le même que pour le type précédent. L'avantage, c'est que si vous ne pouvez bouger, vous avez en théorie quelqu'un qui est là pour vous ramasser et sécuriser la zone avec le triangle de signalisation et ses warnings. S'il n'y pense pas, suggérez-le. Il est même préférable de ne pas bouger si vous avez reçu un choc dans le dos. Un seul élément supplémentaire. Si vous le pouvez, dès le début, essayez au maximum de mémoriser sa plaque. À défaut, inscrivez-la sur votre portable, vous allez savoir pourquoi. La question du constat. Il faut toujours faire un constat. Je suis chiant avec cette règle, mais elle doit être systématique. Certes, vous allez passer pour un pisse-froid, un psychorigide, mais c'est une manière d'acter ce qui s'est passé. En cas de problème de santé ultérieure faisant suite à l'accident, cela permettra une prise en charge. Pour info, l'assurance à laquelle vous vous référez en tant que cycliste est votre responsabilité civile. Vous me direz que le constat peut vous desservir en notifiant que votre vélo n'est pas en règle, etc. Eh bien, si c'est le cas, eh ben c'est votre problème. J'estime que les règles ne sont pas hyper contrariantes, j'en ai parlé dans le précédent épisode. Vous savez comment faire pour que votre vélo soit en règle. Donc, des phares, je le rappelle, les dynamos de moyeu sont aujourd'hui très performantes et permettent de ne pas se soucier de la question de l'éclairage. Des catadioptres, pour nos amis belges, et je crois maintenant depuis peu, également en France, les cata oranges dans les rayons peuvent être remplacé par les bandes rétro-réfléchissantes sur les pneus. Grincheux,
En France.
Ah, on a Betty qui nous confirme qu'a priori, maintenant, les catadioptres oranges peuvent être remplacés par les bandes de pneus.
Oui, depuis quelques temps déjà.
D'accord, ok. Voilà, je savais pour la Belgique, j'étais pas sûr pour la France. Et ensuite, eh bien, il faut deux systèmes de freins indépendants et bien sûr, le gilet lorsque l'on se trouve hors agglomération, de nuit ou par conditions de visibilité difficiles.
Il faut préciser que les deux freins différents, ce n'est pas la gauche et la droite.
Hein. Non,
c'est voilà. Sur chacune des roues.
Voilà, exactement.
Il y a deux freins différents.
D'accord.
Donc, il faut bien préciser que ce n'est pas la gauche et la droite.
J'espère que nos amis qui pratiquent le vélo couché tricycle ne nous écoutent pas. Parce que ça va un peu les vexer. C'est généralement l'astuce qu'ils utilisent. Mais
on essayera d'en inviter un ou de,
ah bah écoute,
de faire une émission spéciale peut-être
okay.
Pour avoir des précisions.
Alors là, quand tu veux, j'ai quelques amis qui seront ravis de venir. Alors notez, je l'ai écrit en gros sur mes notes, notez que le casque ne fait pas partie de la liste. L'utilité en fait encore débat, mais nous allons voir ça dans une prochaine rubrique. Je crois que Mogor voudra un de ces jours nous lancer sur la question du casque.
D'ailleurs, juste pour faire un tout petit aparté à ce sujet,
ouais.
J'ai pas encore eu le temps d'aller lire le billet en question, mais j'ai vu plusieurs fois revenir ce sujet sur Twitter, où un billet remet en cause l'intérêt du casque dans la sécurité, voire même condamne certains casques qui aggraveraient les dégâts causés lors d'un accident.
Oui, ce billet est intéressant,
je,
mais
je n'ai pas troll. Lu, je n'ai pas troll. Je n'ai pas lu la,
mais
le
sujet,
billet,
sujet,
sujet à troll comme
à
tu dis.
Débat stérile appelé aussi troll.
Voilà, ce que je t'invite à faire, c'est de le garder sous le coude et puis on en reparle parce que c'est un sujet qui est très intéressant, mais garde bien ce billet sous
tout
le coude.
Tout à fait. Non mais je rebondissais juste sur la question puisque tu en parlais.
Alors, si vous êtes blessé, sachez qu'une demande d'intervention des pompiers débouche toujours sur une intervention des forces de l'ordre qui doivent établir un constat de police. Dès que vous serez au calme, déclarez votre sinistre d'un simple coup de fil à votre assureur et ce dernier demandera le rapport de police pour établir le constat. Voilà, une petite chose à savoir. Vous êtes blessé, vous n'êtes pas en état de faire le constat, vous demandez l'intervention des pompiers, les pompiers viennent, la police est tenue de se déplacer et de faire un constat. Et ensuite, l'assureur le demande et peut établir le constat de police, le constat à partir du constat de police.
Donc en fait, appeler les pompiers, c'est à plusieurs intéressant.
Tout à fait, et Betty me dit ça avec des yeux gourmands parce qu'elle a envie de voir des beaux jeunes hommes en costume.
Des beaux pompiers qui débarquent.
Si tu viens d'avoir un accident, t'es pas trop en état d'apprécier
pour l'histoire du constat de police, pour en avoir fait les frais moi-même, si les forces de l'ordre n'interviennent pas sur le lieu même de l'accident, ils peuvent intervenir soit aux urgences, vous serez conduit, soit, alors j'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs, est-ce que c'est parce que les policiers qui étaient là étaient choqués par ma blessure, ce qui vu leur regard me semble pas impossible, ils se sont contentés de prendre mes coordonnées, mais ils m'ont par la suite convoqué au commissariat pour prendre ma déposition.
Ça, c'est aussi. Alors, j'aborde un autre petit point dans le cas d'un choc avec un véhicule. La question du tiers récalcitrant. Vous pouvez toujours tomber sur un mauvais coucheur qui va tenter de tout vous mettre sur le dos, surtout si vous êtes cycliste, qui va vouloir se barrer rapidement, va refuser de faire un constat parce que vous êtes un cycliste, etc.
Oui, t'as ça aussi quand t'es en voiture. Hein,
oui, coucheurs. Mais alors en cycliste, c'est encore plus courant. Donc, mon conseil, ne vous opposez jamais à lui. La seule chose que vous allez gagner, c'est de vous prendre un pain. Il refuse de faire un constat ? Qu'à cela ne tienne. Le système est bien fichu. Remplissez à tête reposée la partie de votre constat. Notez un maximum d'infos que vous avez pu glaner sur sa partie. L'info primordiale étant la plaque minéralogique. Je vous ai indiqué en début de cette partie de bien la noter, soit dans votre tête, soit dans votre portable. C'est là qu'elle devient importante. S'il y a des passants...
Éventuellement, les téléphones actuels, la grande majorité des téléphones sont équipés d'appareils photo. Ça prend quelques secondes de sortir l'appareil photo.
Exactement.
Il ne faut pas être trop sous le choc quand même.
Exactement. Mais c'est pour ça. Le but, c'est de pouvoir donner un petit explicatif pour que les gens n'aient pas trop à réfléchir et sachent quoi faire. S'il y a des passants qui sont prêts à se déclarer témoins, demandez-leur de rester et de signer le constat ou bien de vous donner leurs coordonnées pour effectuer les démarches ultérieurement. Votre assureur s'occupera des démarches à faire pour retrouver le monsieur qui s'apercevra bien vite que nier son implication dans un accident est très, très, très mal vu par les assureurs.
Alors, il y a deux cas. Il y a la personne qui va vous renverser et qui va ne pas s'être rendu compte forcément qu'il vous a renversé et qui part. C'est ce qu'on appelle un délit de fuite. Et il y a la personne qui va vous avoir renversé, qui va s'être arrêtée et qui va malgré tout partir. C'est ce que l'on appelle un délit de fuite aggravé. Et le délit de fuite aggravé...
Pas forcément, je t'arrête. Ça marche pas forcément. Si la personne a bien notifié, a bien donné son...
Ça devient un délit de fuite aggravé, c'est du pénal.
Eh ben, pas forcément. Là, c'est à creuser. C'est une question à creuser.
Ah ben, moi, c'est tout creusé. J'ai un copain qui a donné. Et le mec s'est retrouvé avec des poursuites au pénal.
Donc, je fais un petit rappel. Le code de la route a vu apparaître la notion d'usager fort et d'usager faible. Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion, mais elle va être importante par la suite. Un cycliste a souvent gain de cause face à un automobiliste car il est considéré comme faible.
Bah, vu les poids en rapport des véhicules,
et puis les carrosseries,
choquant.
C'est logique.
Oui, ça me choque pas.
Concrètement, même si vous êtes en tort, l'automobiliste doit quand même faire gaffe. Car au final, la tôle froissée, c'est bien moins important que la santé ou la vie. Si on établit que l'automobiliste était en mesure de faire les manœuvres nécessaires, mais ne l'a pas fait... Il sera quand même en tort, même si le cycliste était en infraction, car ce qui prime, c'est de ne pas blesser autrui.
J'en suis la preuve vivante, puisque j'ai eu un accident.
Heureusement que t'es vivant.
Je suis rentré dans l'arrière d'une voiture. Donc selon le code de la route, c'est moi qui n'ai pas maîtrisé mon véhicule et qui n'ai donc pas été en mesure de m'arrêter alors que la voiture devant s'arrêtait. Sauf que la voiture devant freinait sur le feu orange et donc n'a pas fait ses contrôles avant de s'arrêter. Et c'est moi qui qui a eu gain de tort.
Gain de cause.
Mais ça, c'est le, on va dire, c'est plus le code des assurances vis-à-vis du code de la route. Selon le code de la route, j'étais en tort. Selon le code des assurances avec le véhicule fort, véhicule faible, c'est l'autre qui est en tort. C'est un addendum
au code de la route qui est dû à Monsieur Badinter. C'est lui qui a créé la notion d'usager fort et d'usager faible. Voilà. Mais je te remercie de l'exemple. Voilà. Je vais traiter un dernier cas avec lequel sur lequel je suis assez sensible, le choc avec un piéton. Je vais pas être tendre avec vous, je vous préviens.
J'ai une question. Tu parles pas d'un accident avec un autre cycliste, tu l'assimiles à quoi ? Un autre véhicule ?
J'ai parlé d'un choc avec un véhicule.
D'accord.
Un vélo est bien un véhicule, on est bien d'accord.
Oui, mais je pose les questions qui
voilà,
me viennent à l'esprit.
Voilà, c'est tout à fait. Non, mais tu as raison de poser la question. Lorsque j'ai fait la chronique, je me suis posé la question et j'ai dit un vélo, c'est un véhicule, je traiterai du choc avec le véhicule.
D'accord.
Le seul problème avec un vélo, c'est qu'on n'a pas de plaque d'immatriculation relevée.
Voilà, c'est un petit peu
en cas de fuite.
Le modèle, la couleur.
Ah, il avait un pédalier. 22, 32, 42. C'était du SLX, monsieur l'agent. Bon, donc, je vais vous parler du choc avec le piéton et je vous disais, je vais pas étendre avec vous. La notion d'usager faible, là, est encore plus importante. Un cycliste a des possibilités d'évitement par rapport à un piéton qui sont encore plus grandes qu'avec une voiture. On est très léger, un peu moins rapide, on a des freins puissant proportionnellement au poids de notre véhicule. On a un véhicule avec un encombrement réduit et il est hyper maniable. Donc, on n'a aucune excuse sur le fait de percuter un piéton.
Waouh, comme tu dis ça, on dirait que t'as jamais circulé à vélo, quoi.
Si, j'ai circulé et j'ai même renversé un piéton. Donc, c'est pour ça que j'en parle.
Surtout, on n'est pas censé circuler sur les mêmes endroits.
On va y venir. Si jamais vous renversez un piéton, premier point, vous êtes en tort. C'est non négociable. Vous contrôlez l'état de santé de la personne et si cela vous semble préférable, vous appelez les pompiers. 3. Vous lui donnez vos coordonnées, vous prenez régulièrement de ses nouvelles. Est-ce que j'ai besoin de préciser que des excuses les plus plates sont des plus souhaitables ? Effectivement, on n'est pas censé circuler sur les mêmes zones, mais il arrive souvent que les pistes cyclables, spécialement sur Lyon qui s'en est fait la grande spécialiste, les pistes cyclables se situent sur le trottoir et donc généralement on va les côtoyer.
Tout à fait.
Voilà.
C'est pour ça que j'ai bien précisé, on n'est pas censé.
On n'est pas censé.
Malheureusement, les infrastructures sont parfois mal faites et on a des pistes cyclables sur les trottoirs, on abordera sûrement ce sujet un jour, ou à défaut des pistes cyclables côtoyant des trottoirs. Et mal signalé par rapport pour les
Attendez,
piétons.
Attendez, il n'y a pas que les pistes cyclables. Tous les jours, j'emprunte une rue assez commerçante où les piétons traversent sauvagement partout où ils peuvent, en fait. Et moi-même, en tant que piétonne, j'ai déjà remarqué que oui, tu traverses comme tu peux. Et donc, les éviter, c'est pas si facile. Sincèrement, heureusement que j'ai des bons freins. Voilà.
Alors, dans ces cas-là, je te le dis, il faut baisser la vitesse du vélo parce que c'est vrai que ce sont eux qui restent prioritaires.
Bah, dans ce cas-là, je marche, en fait.
Voilà, mais il vaut mieux. Alors, pour conclure, les 10 grandes règles à retenir, ce sont les 10 commandements pour l'accident. Grand 1, ton vélo toujours en règle, tu maintiendras. Grand 2, l'accident de trajet travail, toujours tu déclareras. Grand 3, si sur la chaussée tu es, ton cul très vite tu dégageras. Grand 4, si dans les pommes tu es tombé, les pompiers tu appelleras. Grand 5, s'il est roulant, ton vélo tu contrôleras. Grand 6, les pièges vicieux tu dénonceras. Grand 7, la plaque d'immatriculation, tu noteras, mémoriseras. Grand 8, un constat tu feras. Grand 9, au gros con, tu ne t'opposeras, surtout pas. Grand 10, un piéton, toujours tu éviteras.
Je trouve quand même que tu as oublié quelque chose.
Ça,
je te dis par expérience,
oui.
C'est le témoin.
Ah oui, non, mais c'est clair. Je l'ai signalé pour le constat, bien sûr.
Voilà. Le témoin, je vais t'expliquer quelque chose.
Ah ben, vas-y.
Sur le quai à Lyon, où j'étais un certain temps, il y avait une dame qui a fait un accident, et qui est rentrée dans un poteau qui n'était pas en gris par la commune de Lyon, par la ville de Lyon. Et donc, quand tu roules à vélo, toi-même, tu fréquentes cette piste cyclable, grincheux tous les jours. Et devant ce fameux magasin, tu vois les poteaux, tu les vois pas quand tu roules normalement. Quand tu roules très vite, tu les vois plus du tout. Ils ont peint un gris. Donc un jour, un samedi matin, il y a une dame qui est rentrée dedans. Elle pensait que ça allait, elle est tombée. Moi, je le vois depuis le magasin, je le vois tomber. Je cours pour lui ramasser son vélo. Elle me dit, bon, ça va et tout. Je la regarde, c'est une dame d'un certain âge. Je dis, non, madame, rentrez avec moi dans le magasin, je vous offre un café, vous allez reprendre votre prix et vous allez voir comment ça va. Ça allait effectivement pas du tout. J'ai dû appeler le pompier, elle est tombée dans les pommes. Après, j'ai appelé le pompier, elle avait une épaule cassée. Mm-hmm. Elle était transportée à l'hôpital, le vélo est resté chez nous, on l'a réparé.
Voilà clairement ce que je voulais dire dans le fait que parfois quand on refroidit, on peut avoir des douleurs très intenses qui se réveillent.
Et donc cette dame, elle est transportée à l'hôpital, elle a été opérée. Mm-hmm. Et des mois après, quand j'étais déjà ici dans l'Auvergne, elle m'a contactée par billet de quelqu'un que je connaissais, qu'elle connaissait aussi, mais c'était vraiment loin. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me faire une attestation de témoignage parce que mon assurance ne veut pas me rembourser les frais médicaux.
Très très bien.
Donc c'est toujours intéressant d'avoir un témoin de la situation.
Et du coup, j'irais même jusqu'à dire, c'est peut-être intéressant de demander un témoignage dès qu'on le peut, parce que toi, tu t'en rappelais
exactement.
Bien, t'as une bonne mémoire, et tu connaissais peut-être les détails un peu techniques du vélo, mais oui. Quelqu'un qui connaît rien au vélo se rappelait si t'es tombé sur le côté, sur le dos, qui était en train de faire quoi.
Mais je pense que malheureusement, tomber sur quelqu'un de la qualité de Betty, c'est pas...
Oh, arrête.
C'est pas souvent le cas, c'est souvent le problème. Voilà. Yeah. C'est avoir quelqu'un qui est aussi consciencieuse, ça risque d'être
non,
rare.
Non, mais bon.
Voilà.
Il faut toujours se déplacer à la place de la victime.
Tout à fait.
Tu sais, quand tu es victime, tu aimerais que quelqu'un se souvienne de tout, se souvienne de détails, voilà.
Et à qui donc... dis-tu ? Parce que j'ai été souvent victime.
Alors, je vais rajouter un dernier point sur le témoin. Ce n'était encore une fois pas à moto, pas à vélo, mais à moto à l'époque. J'étais dans le camion des pompiers. J'ai demandé à ce qu'on appelle le témoin pour que je prenne ses coordonnées. Les policiers m'ont dit non, c'est bon, on s'en occupe. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Grand bien mal m'en a pris puisque un arrangement entre la personne qui m'a coupé la route et les policiers a fait qu'il y a eu traficage sur le rapport de police. Le témoin avait disparu, etc. Donc, même si des policiers vous disent on s'en occupe, notez toujours, demandez expressément toujours à vous-même prendre les coordonnées du témoin.
C'est compliqué d'avoir
un accident. C'est dommage de devoir douter des forces de l'ordre.
Des forces de l'ordre, mais oui.
Mais malheureusement, ils sont humains et au milieu de tout ça, il y en a certains qui sont moins clairs que d'autres.
Concrètement, Mogor, si tu suis mes conseils, ça se passera bien.
Très bien. Bah, la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas appelé les pompiers. J'aurais peut-être dû faire tout le reste.
Et je dois avouer que sur le coup, ça nous a paru tellement évident que c'est l'accident de trajet. On n'a même pas pensé à te le conseiller quand tu nous en as parlé immédiatement. Mais
et
c'est
non,
vrai
que. Parce que oui. J'avais jamais eu d'accident aussi grave avant.
J'avoue.
C'est quand on n'a jamais d'accident que tout se passe bien, qu'on fait un trajet quotidien. La fois où je me suis plantée, c'était moi toute seule contre, comme tu disais, tu
n'en as peut-être pas conscience, mais en fait, ce dossier, je l'ai établi après ton accident. C'était à la suite de ton accident que j'y ai pensé.
Tu t'es dit que peut-être d'autres gens avaient aucun problème.
Exactement.
Et un jour, peut-être, malheureusement pour eux, ils allaient se retrouver face à la plaque de verglas, face à l'automobiliste.
Voilà pourquoi je voulais faire cette chronique. Exactement.
Bah, merci beaucoup. Ça m'aurait servi plus tôt, mais.
Ça sera
moins...
pour quelqu'un d'autre. Mais au moins,
ça servira sûrement à quelqu'un d'autre.
Voilà.
Voilà.
Merci Prokylus. On va donner le mot de la fin à Mogor.
Tout à fait. Alors, j'ai en fait un blind test à vous proposer. Tout simplement, vous allez avoir un extrait d'une chanson, sauf si Grincheux accepte de la repasser en entier, mais d'abord vous allez avoir un extrait. Et celui qui trouve d'où vient la chanson, donc de quel site ça vient, recevra une petite surprise de notre part par colis postal. Donc il faudra laisser ses coordonnées par mail et puis après ça arrange pour vous l'envoyer.
Allez,
voilà.
Feu.
Donc vous allez pouvoir écouter un extrait d'une chanson.
Et bien c'est parti.
Lance Armstrong, Carlos Sastre, les Schleck, les maigrichons les plus speed du globe viennent encore chuchoter à ton lobe. Tour de France, je veux être ton mec cet été.
Bien, et bien maintenant que vous avez pu apprécier les goûts musicaux de Mogor, je crois qu'il est temps de terminer ce podcast. Tout d'abord, où peut-on nous retrouver sur Internet? On va commencer par le compte Twitter du podcast, donc Cyclocast, tout simplement. Mogor sur Twitter, on peut te retrouver...
Mogor.
Voilà. Grincheux, on peut me retrouver sur Grincheux.
Sur Facebook.
Prokylus, on ne te retrouve pas sur Twitter.
Mais vous pouvez me retrouver sur Facebook à Sully Espace Corp. tout simplement.
Voilà. Et surtout sur Facebook, nous avons le compte de Cyclocast. Et puis après, évidemment, notre site web,
oui,
cyclocast.fr.
Cyclocast.fr avec le répondeur.
Moi, je tenais à remercier ce soir Betty de nous avoir reçus. C'était un vif plaisir. J'ai beaucoup apprécié d'entendre parler ton expérience parce que... voilà.
On te faisait la surprise de cette émission, mais on est très content d'abord de ton accueil et puis également de que tu te sois prêté au jeu des questions et du podcast.
Et est-ce que tu nous diras un petit mot pour la fin pour nos auditeurs?
Évidemment. Moi, j'aime bien accueillir toutes les cyclistes, que ce soit des gens que je connaisse, que ce soit des gens que je connais pas, parce que moi, je trouve que les gens qui se déplacent à vélo dans une région pareille où j'habite, ça vaut quand même la peine d'être bien accueilli après tant d'efforts. Donc, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez trouver mes coordonnées par biais de Cyclocast. Et surtout quand je serai ouvert en chambre d'hôte, mais même avant par warmshowers.org.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Comme d'habitude, nous allons mettre tous les liens sur le billet du podcast. Et puis, je vous dis au mois prochain.
Salut.
Salut, salut.
Come